De quoi s'agit-il ?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous ?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non ?
Cinérama.
Vous en êtes sûr ?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant ?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, l'embouteillage tant redouté va avoir lieu. Les cinémas sont autorisés à rouvrir lundi 22 juin. On n'a pas assez des doigts d'une main pour compter les films sortant à ce moment-là. Et même en ajoutant les doigts de pied, le compte n'y est pas. Plus de 30 films sortent ou ressortent. Alors il y a ceux qui sont sortis fin février ou début mars et dont la carrière a été contrariée. Ceux qui sont sortis une semaine avant le confinement, dont la carrière n'a qu'à peine démarré. Et puis il y en a quelques autres qui étaient programmés le mercredi de la première semaine de confinement. Alors dans cette émission, nous allons vous parler des films qui ressortent. Exceptionnellement, alors que nous étions parvenus à nous retrouver tous ensemble dans un studio improvisé, eh bien on retrouve la version confinée de Cinérama, c'est-à-dire chacun chez soi, en attendant qu'un des membres de l'équipe recouvre pleinement l'usage de sa voix. Pour cette émission d'avant-ouverture des salles de cinéma, on vous aide donc à vous mettre confortablement dans les starting blocks. Marine a choisi de vous parler des Lèvres Rouges de Harry Kummel, un film qui n'a pas été pénalisé par la crise sanitaire puisqu'il date de 1971, mais il ressort en salle en même temps que les autres après une première tentative le 11 mars. Guillaume a lui vu Radioactif de Marjan Satrapi, sorti une première fois le 11 mars. Quant à moi, j'ai décidé de mettre en avant Congo, un documentaire étonnant de Cortou Vaclav et Adrien Lavapeur. On avait rencontré l'un des réalisateurs en tête à tête. Manu, il a deux films. D'une part, Millennium Actress, dessin animé de Satoshi Kon qui sort en VOD, et La Bonne Épouse. C'est avec cette comédie de Martin Provost sur l'émancipation féminine dans les années 60 avec le trio Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, que nous commençons l'émission. Le film était sorti le 11 mars. Comme c'est Manu qui a des problèmes de voix, eh bien on exhume la chronique qu'il avait faite au moment de la sortie du film.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Mesdemoiselles, un peu de silence s'il vous plaît.
Pendant les deux années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Zay, 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 zay.
Zay, 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 zay. Bienvenue dans la France, on va dire, sexy et rock'n'roll de Gaulle hein, des années 60. Alors par je ne sais quel a priori, un peu stupide, je m'étais jusque-là tenu à l'écart des précédents films de Martin Provost, de Séraphine à Sage-Femme. Alors depuis l'année de Juliette, qui était sortie au début des années 2000 et qui ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Alors c'est un peu à reculons que je suis entré dans la salle pour découvrir le nouveau film du cinéaste, La Bonne Épouse. Une salle par ailleurs très féminisée et surtout très âgée. Alors rien d'étonnant aussi vu le sujet qui se déroule juste avant les événements de 68, quelque part dans une campagne reculée, loin des bouleversements qui agitent les villes avec tous ces étudiants et ces travailleurs en colère prêts à renverser le pays. À l'opposé de cette agitation citadine, dans un petit coin perdu de l'Alsace, existe une école de ménagères, donc tenue par Paulette van der Berg, épaulée par sa belle-sœur, une vieille fille rêvant du grand amour et une nonne gentiment irascible. Elle enseigne depuis plus de 20 ans l'art de tenir son foyer impeccablement et de se plier aux devoirs conjugales avec le sourire à des jeunes filles qui commencent à être un peu en décalage avec cette éducation stricte, pour être poli. Hein. Alors si en 45 les femmes ont acquis le droit de vote, ce n'est qu'en 65 qu'elles obtiennent le droit d'exercer une activité professionnelle et de posséder un chéquier à leur nom. Ça nous vaut quelques séquences assez drôles dans le film d'ailleurs. L'aspect à rien suranné du film de Martin Provost n'a rien de consensuel. Il restitue à merveille l'atmosphère à la fois insouciante et inégalitaire d'une époque qui va vivre certains changements radicaux.
La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères.
Je veux te revoir.
Non ! Afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée.
Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi.
Et si ça peut te rassurer, sache que.
Je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine.
Tu sais faire la cuisine, toi ? Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Comme ça, quand on entend la bande-annonce, on se dit que le film enfonce un peu des portes ouvertes. Mais il faut bien penser qu'on est quand même en 67-68 et que les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est une sorte de feel-good movie tendre et satirique. Alors, centré autour de trois figures féminines ayant dépassé la cinquantaine, La Bonne Épouse, alors loin des gaudrioles un peu grasses qui sévissent sur les écrans, est une comédie plutôt réussie, admirablement dialoguée et rythmée par une mise en scène alerte, tout entière au service d'une mécanique bien construite. Alors justement, la construction du récit évoque davantage l'esprit de certaines BD, forçant un peu le trait pour mieux rendre compte l'esprit d'une époque. Les personnages sont bien dessinés, juste qu'il faut de caricatural pour susciter l'adhésion et provoquer le rire, à commencer par le fameux trio dominé par une Juliette Binoche qui exécute un show étourdissant. Alors parfois très énervante, voire crispante dans certaines de ses dernières prestations, je trouve, ça c'est personnel, elle cabotine ici pour notre plus grand plaisir, révélant un talent comique assez peu exploité durant sa carrière. Alors pour supporter cette tornade, il fallait des actrices de poids en face, parce que c'est toujours le problème quand quelqu'un vampirise l'écran à ce point-là, en fait. Mais Yolande Moreau, en vieille fille cuisinière, fan de Adamo, et surtout Noémie Lovski, hilarante en bonne sœur, sont prodigieuses. En contrepoint de cette partie burlesque, Martin Provost dresse un joli portrait d'un groupe de jeunes filles, proches de la révolte, en opposition aux valeurs enseignées depuis des lustres par leur famille, pas si éloignée finalement de leur directrice, qui cache un peu son jeu, qui n'est pas ce qu'elle paraît être au fond. Ces filles ne rêvent que d'une chose, d'amour et de liberté, à travers une émancipation possible. Alors une douce subversion traverse cette chronique de mœurs féministes, rendant un hommage très réussi au plus anarchiste des films français, Zéro de conduite de Jean Vigo, lors d'une émouvante bataille de Polochon où deux jeunes filles vont se déclarer leur amour. Il s'agit sans doute, à mon sens, certainement par l'aspect référentiel, du moment le plus beau de ce petit film plein de charme qui résonne avec l'actualité récente. Alors le film se clôt par un autre hommage, cette fois-ci à Jacques Demy, grand cinéaste, qui à travers ses films légers et pop, distillait des idées sulfureuses et progressistes. La comédie musicale s'empare du film de manière assez maladroite et appuyée, cela dit, martelant un texte engagé en forme de tract, épilogue trop didactique pour emporter l'adhésion. Alors la réussite fragile de La Bonne Épouse, elle se retrouve soudain malmenée par un discours féministe peut-être un peu lourd. Mais malgré cette sortie de route finale, La Bonne Épouse s'avère globalement une très bonne surprise. Et on passe un bon moment devant un film qui n'est pas idiot en plus.
La Bonne Épouse de Martin Provost accompagne la réouverture des salles.
This is Cinérama.
Film sorti en 1971 et interdit aux moins de 16 ans. Les Lèvres Rouges de Harry Kummel était sorti le 11 mars dernier. Le distributeur Malavida lui laisse une autre chance avec une nouvelle sortie pour la réouverture des salles. Marine nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
J'admire votre sang-froid après ce qui s'est passé.
Laissons les morts enterrer les morts.
Nous sommes près de la ville de Ostende, en Belgique, par une froide nuit d'hiver. Un jeune couple fraîchement marié s'y retrouve bloqué lorsque leur train tombe en panne. Ils n'ont d'autre choix que de s'arrêter passer la nuit dans un immense et luxueux hôtel vide dans lequel ils font la connaissance de la comtesse Bathory, une très belle et très mystérieuse femme accompagnée d'une jeune fille avec qui elle semble entretenir une relation plutôt ambiguë. Mais l'intendant de l'hôtel reconnaît la comtesse et il est formel. Il a déjà rencontré cette femme 40 ans auparavant. Et pourtant, le temps semble n'avoir eu aucune emprise sur son visage. Alors, abus de chirurgie plastique ou cure de jus de céleri détox, il semblerait que la raison de cette jeunesse éternelle soit bien plus effrayante que cela.
Stéphane, dites-moi que vous êtes heureux d'être là. Je veux que vous le soyez.
S'il ne tenait qu'à moi, je ne serais pas ici avec vous en ce moment, vous le savez.
Oh, mais nous ne pouvons pas nous passer de vous.
C'est sûrement ce que pensera aussi la police.
Mais vous ne risquez rien avec moi, rassurez-vous.
Moi, je n'ai tué personne.
Encore.
C'est difficile à oublier.
Oh, vous oublierez. Au bout de quelque temps, ce ne sera plus que le souvenir d'un mauvais rêve et bientôt simplement le souvenir d'un souvenir de plus en plus vague. J'ai déjà vu tant de nuits tomber dans l'abîme du temps.
Des nuits telles que la nuit passée ? Ou encore pire ?
Qui pensez-vous donc que je sois ? Parce qu'il se trouve que je m'appelle Bathory. Une goule, un vampire. Ah non, mon cher. Je ne suis qu'un personnage démodé, anachronique, rien de plus. Vous savez la belle étrangère un peu lasse, un peu mystérieuse, qui traîne son spleen d'une ville à une autre, il y a 15 jours à Nice, Monte-Carlo, avant-hier, Bruges.
Ah, parce qu'il y a 2 jours, vous étiez à Bruges.
Les lèvres rouges fleurons du cinéma fantastique belge des années 70, oui, la catégorie est assez précise, est une réécriture du mythe de la comtesse Báthory, cette célèbre comtesse hongroise du XVIe siècle qui préservait, soi-disant, sa jeunesse éternelle en buvant du sang de vierge, vierge qu'elle aurait enlevée par centaines avant de finalement se faire emprisonner. Alors, petit aparté, il est difficile de différencier la vérité de la légende. Il semblerait que dans les faits, on n'ait jamais retrouvé aucun des corps de ces jeunes filles et que les témoignages accusant la comtesse aient tous été obtenus sous la torture. Ce seraient donc vraisemblablement les hommes de la famille royale qui auraient comploté et inventé ce personnage de sorcière assoiffée de sang afin d'emprisonner la comtesse Báthory et de spolier sa fortune. Je referme la parenthèse. Dans cette version 70s qui flirte avec le bis par ses effets spéciaux quelque peu grossiers, mais qui fait preuve tout de même d'une vraie générosité dans sa mise en scène, le réalisateur Harry Kummel a eu l'excellente idée de ne pas tomber dans le film de genre purement binaire qui aurait opposé des victimes masculines à la figure de la succube. Finalement, le film, en montrant une certaine forme de masculinité toxique et violente, induit l'idée que le monstre n'est pas forcément celle que l'on croit. Rien de surprenant lorsque l'on sait que l'iconique comédienne Delphine Seyrig, qui interprète ici la comtesse Báthory, était très engagée dans la lutte féministe, elle incarne dans Les Lèvres Rouges un vampire moderne d'un érotisme éthéré, à la fois dangereuse et irrésistible. Côté mise en scène, Les Lèvres Rouges s'avère, c'est vrai, un peu daté, mais cela participe de son charme vénéneux. On sent que le film a été fait avec un budget modeste. D'ailleurs, la présence de Delphine Seyrig au casting fut l'un des moyens pour le réalisateur d'obtenir des financements. Malgré de nombreux raccords plus qu'approximatifs, Harry Kummel fait preuve d'une mise en scène foisonnante, inventive, soignée. Le film est pour nos pupilles un ravissement de chaque instant à redécouvrir sur grand écran.
Les Lèvres Rouges, un autre film qui accompagne la réouverture des salles.
This is Cinérama.
On peut croire à la magie ou ne pas y croire, et si on n'y croit pas, on peut quand même se laisser porter par le portrait d'un désenvoûteur à Brazzaville au Congo. C'est le sujet de Congo, Congo avec un K, documentaire étonnant dont on parle maintenant avec l'un de ses réalisateurs.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
6 ans, c'est le temps qu'il aura fallu aux deux réalisateurs, Adrien Lavapeur et Corto Vaclave, pour sortir Congo, un documentaire qui s'empare d'un sujet surprenant, la magie, noire ou pas, la sorcellerie au Congo, un pays que les co-réalisateurs nous font approcher en suivant l'apôtre Médard, un guérisseur qui reçoit chaque jour à Brazzaville quantité de Congolais. Alors il peut s'agir de désenvoûter, de favoriser la rencontre d'un mari, de guérir même une blessure. Médard est un entremetteur, il s'arrange pour prendre les démons et les isoler dans des fioles qu'il va ensuite jeter dans l'impressionnant fleuve Congo. Mais comme si nous étions dans une fiction bien orchestrée, l'apôtre Médard va passer de guérisseur à coupable d'avoir envoyé la foudre s'abattre sur 2 enfants en pleine saison sèche. Je vais vous passer la méthode de jugement d'un tribunal qui apparaît comme une sorte de mise en scène. Pourtant, tout est vrai. Tout ce que nous montrent les deux réalisateurs se passe dans un Congo à milieu de notre rationalité. Le geste cinématographique salutaire d'Adrien Lavapeur et Corto Vaclave est de ne pas prendre de distance avec leur sujet, c'est même de croire avec eux. Congo est une quête de l'invisible. Alors on parle d'esprit, de sort, de transe, de sirène, avec peut-être tout d'abord une certaine réticence qui finit par s'estomper tant la forme de ce documentaire accompagne son sujet avec une bande sonore travaillée, des images tour à tour banales ou allégoriques. Alors il y a une formidable séquence où Médard se retrouve au bord du fleuve Congo, masse d'eau impétueuse qu'on imagine brassant des sirènes, ou encore l'apôtre Médard en habit traditionnel au milieu des pelleteuses chinoises venues extirper le minerai du sol congolais et dérouter les cascades où vivent les sirènes. C'est d'ailleurs cette image qui a été choisie pour l'affiche du film, car si Congo veut nous faire prendre part à l'invisible, il parvient également à montrer comment la diversité de la société congolaise, dont la tradition a été malmenée par les colons, l'est aussi maintenant par le capitalisme. Les deux réalisateurs ont rassemblé énormément d'images avant d'accoucher d'un documentaire qui tient en moins d'1h15, un film remarquable. Nous en avons discuté avec Adrien Lavapeur, le co-réalisateur.
C'est du jamais vu. C'est comme un cauchemar. Apôtre Jean Médard
Bonjour Adrien Lavapeur. Donc vous êtes co-réalisateur avec Corto Vaclav d'un documentaire assez étonnant, assez surprenant et assez inattendu dans le paysage cinématographique français qui s'appelle Congo. Alors bien, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à partir au Congo et nous raconter bien ce qui se passe autour de la magie noire là-bas?
L'histoire de ce film a d'abord commencé au Brésil. Moi, je me suis retrouvé là-bas, c'était en 2009, et j'ai participé à un rituel d'ayahuasca. Alors, peut-être certaines personnes ne connaissent pas, mais c'est une boisson qui donne des visions, qui vient de la forêt amazonienne. Et en même temps, l'esprit sort de notre corps et va dans le monde astral. Et de par cette expérience avec cet autre monde, ce monde divin, on pourrait dire, eh ben, j'ai eu des questionnements et j'ai eu besoin de faire des recherches. Et après, la vie m'a emmené au Congo pour j'avais un travail là-bas de caméraman. Et forcément, j'ai cherché à rencontrer qui étaient ces gens qui communiquaient avec ces esprits. Et je suis tombé sur cette église Ngunza. Donc c'est le nom local. C'est des vaudous, en fait. Et donc c'est une église, ils se retrouvent le dimanche pour prier, mais c'est aussi comme un hôpital spirituel. C'est-à-dire que chaque matin, notre apôtre qui s'appelle Médard, c'est celui qui dirige l'église, il reçoit des patients, des malades qui sont atteints de mauvais sort. Et puis il fait des rituels et il les guérit. Donc au début, c'était vraiment une recherche sur les esprits. C'est vrai qu'on voulait plutôt faire un film peut-être un peu plus pédagogique pour raconter cette histoire de guérison divine. Parce que il faut savoir que quand Médard guérit, c'est pas lui-même qui guérit, c'est qu'il convoque des esprits pour aller combattre ses mauvais sorts. Donc Médard, on pourrait dire, c'est un intermédiaire. Donc ça, c'était l'idée de départ. Mais très vite, en suivant Médard, on est rentré dans ses problèmes, tous les problèmes qui lui arrivaient, alors, bien sûr liés à l'invisible. Et c'est presque devenu... on a essayé presque de faire le film comme une fiction, malgré le fait que ça soit un documentaire. Mais voilà, ce premier projet de départ pédagogique s'est trouvé très vite éclaté. On pourrait dire l'Afrique nous a rattrapés. Hein.
Vous avez raison de parler de fiction et de frontières avec le documentaire parce que ça va très loin et pourtant on a l'impression qu'ils sont vraiment en transe, qu'ils sont convaincus de ce qui se passe, alors que moi j'ai une certaine réticence finalement à admettre ce que je vois.
C'est vrai que le Congo, c'est sur la planète Terre, hein, donc c'est la même planète, mais c'est vraiment un autre monde tellement éloigné de ce qu'on peut connaître ici en Occident. Nous au début on se posait beaucoup la question quand face à des personnes en transe ou face à des rituels, on se demandait est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et ça, c'était un peu finalement une habitude occidentale aussi. Parce que nous, on a tendance ici en France à étiqueter les choses, à mettre dans des catégories. Il faut savoir qu'en Afrique, en tout cas au Congo, les frontières entre le vrai et le faux sont beaucoup plus poreuses. C'est-à-dire qu'une chose peut être vraie à la fois et fausse aussi. On n'est pas dans une dualité implacable. Et donc nous, on a dû faire tout un travail pour, on pourrait dire, décoloniser notre regard. C'est-à-dire arrêter de juger ce qu'on voit, arrêter de se poser mille questions et juste être là en train de filmer. Et c'est à partir presque de ce moment-là qu'on a pu trouver la bonne distance pour faire ce film.
Peut-être on peut parler de la forme. Alors il y a évidemment tout ce qu'on voit, il y a des choses qui peuvent apparaître spectaculaires, mais il y a aussi l'accompagnement d'une musique.
Parce que nous au Congo, en découvrant cette société-là, on a vraiment eu l'impression d'être à l'intérieur d'un conte, à l'intérieur d'une sorte de musée du surréalisme à ciel ouvert. Et on a aussi fait appel à Michel Redolfi, comme c'est un film qui parle des sirènes, hein, finalement. Il fallait aussi qu'on pénètre un peu ce monde des sirènes et c'est vrai que la musique, par le son, on a, en tant que spectateur, ça déclenche aussi un voyage presque... C'est plus facile de pénétrer ce monde-là par le son. Notre difficulté lors de ces 6 jours de tournage, c'est qu'il y a eu tellement d'histoires autour de Médard, parce que Médard... bon, c'est une sorte de sa petite église du ghetto, mais il reçoit tellement de gens tous les jours avec plein de problèmes, et donc on avait une multitude d'histoires, et toute la difficulté, ça a été d'en trouver une très simple, d'épurer assez le récit pour que le spectateur français ou occidental se trouve un peu à l'aise et décroche pas trop vite du film. Et c'est vrai qu'à un moment, vu qu'on suit Médard comme il est accusé de sorcellerie, à un moment on est collé au personnage et le spectateur prend parti avec lui, et finalement il rentre dans l'histoire, même si il comprend pas tout, parce qu'on peut pas tout expliquer, hein, évidemment, déjà par rapport au monde invisible et surtout par rapport à l'Afrique. C'est vraiment un territoire, c'est difficile d'arrêter les choses comme ça, en quelques phrases. Déjà, c'est une tradition orale. Et d'ailleurs, il y a un proverbe congolais qui dit que si tu crois avoir compris le Congo, c'est qu'on t'a mal expliqué.
C'était Adrien Lavapeur, le co-réalisateur de Congo, un documentaire qui accompagne la rouverture des salles. La semaine dernière, nous nous amusions avec un blind test spécial biopic féminin. En voilà un, Radioactive, de Marjane Satrapi, qui fait le portrait de Marie Curie avec Rosamund Pike, qui a des airs d'Audrey Tautou sur l'affiche.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait, judicieux, simple et logique.
J'ai appelé cela la radioactivité.
Le retour de Marjane Satrapi au cinéma commençait sérieusement à se faire attendre, car elle n'avait rien réalisé depuis The Voices, son premier film américain datant de 2014. Malheureusement, Radioactive sera l'une des premières victimes de la fermeture des salles en mars. Sa nouvelle exploitation au cinéma à partir du 22 juin est une bonne chose, car au-delà du fait d'aider à relancer l'économie du marché cinématographique, on sait que Marjane Satrapi est une femme d'image toujours aussi visuelle, narrativement parlant, y compris quand il s'agit d'illustrer le monde de la physique et de la chimie. Donc Radioactive, c'est un biopic sur Marie Curie, née sous le nom de Maria Sklodowska en Pologne, et qui va rejoindre la France et le Paris de la fin du 19e siècle pour devenir une scientifique de renom. Son but est de pouvoir exercer suivant ses attentes et en allant jusqu'au bout de ses visions, sans être remise en cause par ses confrères et ses supérieurs de l'académie. Arriver à combler cette destinée est bien évidemment d'une difficulté toute particulière quand on est une femme, encore plus une femme libre, doublée d'une immigrée. L'individualisme et l'arrogance de Marie vont lui permettre de se faire, non sans mal, une place dans ce monde masculin, mais, comme toujours dans un récit un peu romanesque, la petite histoire va être rattrapée par la grande. Après ses découvertes scientifiques tournant autour de la radioactivité, Marie, fraîchement veuve, va rejoindre le front pour soigner les blessés de 14-18 et éviter bon nombre d'amputations grâce à sa machine à rayons X. Cette femme moderne va donc apporter une science et une médecine tout aussi modernes au XXe siècle et dont l'héritage va nous être présenté de diverses manières.
J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique.
Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément.
Vous croyez avoir découvert un nouvel élément ?
La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate.
Veuillez quitter mon laboratoire.
Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise.
On imagine tout de suite ce qui a pu séduire Satrapi dans ce biopic. Donc le personnage de Maria qui devient Marie a tous les attributs requis pour être une héroïne née sous sa plume. Elle est littéralement punk, anti-système, défiant toutes les institutions et n'agissant que rarement comme la bienséance voudrait qu'une femme de son rang se comporte, c'est-à-dire de manière calme et posée. Maria est une immigrée qui va trouver en sa terre d'accueil l'opportunité d'exercer son talent et qui va arriver à se faire un nom grâce à sa propre production. À l'image de l'élément qu'elle va découvrir, donc le radium, elle ne va pas se comporter comme elle le devrait et va même être l'illustration littérale de sa science qu'elle définit comme étant la chimie de l'impondérable. Le problème est que ce personnage principal, qui devrait être du coup très charismatique, en fait terriblement antipathique pendant une bonne partie du film. Contrairement au personnage principal de Persepolis qui veut fuir un avenir bouché par le fascisme, ou celui de The Voices qui est un méchant mais c'est un méchant contrarié, Marie, elle sait d'entrée qu'elle est brillante et elle va confondre ambition créatrice avec une raideur et une méchanceté fatigante à la longue. Le peu de développement consacré au personnage de Pierre Curie permet lui aussi de voir les limites de cette écriture et de cette représentation qui confond rapidité avec virtuosité. La vie de Marie défile à toute vitesse sans vraiment nous impliquer et sans qu'on ne développe une véritable sympathie, voire empathie pour elle.
Le troisième acte, qui arrive un peu tard pour gommer les dégâts, permet quand même d'inverser un peu la vapeur quand notre héroïne va comprendre que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et qu'en combattant sa peur des hôpitaux, c'est son trauma fondateur, elle pourra sauver des milliers d'hommes blessés sur le champ de bataille. Marjane Satrapi a bien compris que Marie Curie éclairait ses contemporains et a allumé une flamme destinée à briller pour les générations à venir. Justement, le topos de la flamme qui danse, qui brûle, qui irradie, qui donne la vie mais aussi la mort, revient tout au long du film et est l'une des rares facéties visuelles que la réalisatrice se permet dans un récit malheureusement traité de manière bien plus sage qu'espérée chez une femme aussi pétillante et irrévérencieuse. Coincée entre l'illustration de l'histoire personnelle de Marie et la réflexion critique d'une science parfois sans conscience, Satrapi perd de sa fraîcheur qui aurait probablement pu faire la différence avec un biopic lambda. On pense à son confrère Johann Sfar et à son adaptation très libre de la vie de Gainsbourg dans le bien nommé Gainsbourg Vie héroïque. Et on espère qu'elle va nous revenir vite sans aucune encre.
Si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature.
J'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre l'impossible. C'est mon combat et je le remporterai.
Radioactive de Marjane Satrapi accompagne la rouverture des salles. On termine cette émission avec un dessin animé Millennium Actress de Satoshi Kon. C'est une sortie VOD après la ressortie en salle de l'an dernier. Et encore une fois, on exhume la chronique qu'on avait faite Manu au moment de la ressortie.
Alors scandaleusement inédit depuis sa réalisation en 2001, seulement édité en catimini en DVD, Millennium Actress sort enfin en salle dans une copie restaurée permettant ainsi de découvrir l'une des œuvres matrices non pas d'un des grands noms de l'animation, du manga, mais d'un cinéaste tout court disparu prématurément en 2010 à l'âge de 47 ans. C'est Satoshi Kon, éclipsé en son temps par la reconnaissance mondiale de Hayao Miyazaki, dans une moindre mesure aussi Takahata ou Otomo. Satoshi Kon est sans doute l'un des formalistes les plus passionnants du Japon. Millennium Actress prolonge les thématiques de Perfect Blue, thriller schizo auscultant la société du spectacle sous la double influence de De Palma Argento, en les appliquant à un tout autre genre, le mélodrame. Kon poursuit sa réflexion sur le réel et l'imaginaire qui s'entrecroisent pour créer une sorte de réalité subjective vertigineuse en l'appliquant une histoire bouleversante que n'aurait pas renié un Wong Kar-wai. Cette obsession sur la perception rejoint aussi l'univers de Philip K. Dick, qui est l'un des écrivains préférés de Satoshi Kon, sauf que chez ce dernier, il n'est pas question d'altération du monde tel qu'il est dans un but précis organisé par un tiers, mais de plonger dans la psyché et l'inconscient d'un personnage qui réinvente sa propre réalité. Alors deux journalistes de télévision, dont un ancien assistant de studio, se rendent chez Shiyoko Fujiwara, ancienne gloire du cinéma japonais dans les années 40 à 60. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle vit aujourd'hui recluse à la campagne. L'ancien assistant est un admirateur inconditionnel de l'actrice, l'ayant rencontré auparavant sur les plateaux. Il lui remet une clé que Shiyoko avait perdue 30 ans auparavant. Elle replonge dans ses souvenirs et raconte son histoire, cette quête amoureuse passée à rechercher un étrange inconnu, un peintre constamment en fuite qui lui a un jour remis cette clé en lui faisant la promesse de la revoir. Alors, le fil conducteur d'un récit gigogne entremêlant les espaces-temps avec une virtuosité inouïe est bien cette clé. Le film raconte en fait le désir absolu d'une femme de chercher inlassablement son amant et non de le trouver. De cette vision proustienne, Satoshi Kon en tire un millefeuille visuel et narratif d'une richesse inépuisable, ne brillant pas par son animation, que certains risquent de trouver sommaire, mais par l'inventivité d'une mise en scène fascinante, foisonnant d'idées grâce à la seule force d'un montage exceptionnel, enchevêtrant à chaque fois le passé et le présent, le réel et la fiction, intégrant l'influence évidente d'un Alain René dans le cadre d'un film d'animation pour adultes, mais qui reste malgré tout très abordable. La dimension expérimentale de Millennium Actress est tout entière au service d'une émotion à fleur de peau faisant exister pleinement des personnages animés. Les deux reporters sont immergés dans le passé de l'héroïne. Ils participent pleinement aux péripéties qu'elle a vécues tout au long de sa vie mouvementée, traversant l'histoire politique et sociale du Japon, mais aussi de toute l'histoire du cinéma japonais. Conn brise la linéarité classique du biopic romanesque en multipliant les allers-retours, les interactions entre les personnages issus d'époques différentes, les événements fantasmés ou bien réels. Le film provoque une sorte de délice de la confusion, un envoûtement constant ne laissant jamais le spectateur récupérer ni souffler, le maintenant dans un état flottant proche d'une sorte d'hypnose. C'est tellement beau aussi graphiquement. Alors pas tant l'animation qui peut paraître un petit peu, je disais, sommaire, mais c'est tellement beau visuellement qu'il ne faut pas rater, je pense, ce petit chef-d'œuvre d'un des grands noms. Et je conseille aussi, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres Satoshi Kon, d'aller jeter un œil à sa série qui est proche de David Lynch, Paranoia Agent, et puis Tokyo Godfather aussi.
This is Cinerama.
Millennium Actress de Satoshi Kon, c'est une sortie VOD.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On se retrouve la semaine prochaine pour parler des films qui sortent avec la rouverture des salles. Encore une fois, on aura l'occasion d'entendre une interview des deux réalisateurs de Filles de joie, un film qui nous emmène dans une maison close en Belgique.
This is Cinerama.